Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être tous les jours, du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. Alors comme tous les jours, dès 15h, à la sortie de ses consultations, il file comme une fusée dans ce studio avec ses baskets. C'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, vous êtes en forme.
J'ai donné
là.
Le ton un peu, les baskets, tout ça, je sais même pas si c'est vrai.
Non, mais j'ai des chaussures de ville, c'est
bon,
un peu plus classe.
Là, d'ailleurs, vous êtes souvent en basket.
Mais vous êtes très en forme là, c'est parce qu'on va parler de sport
mais
aujourd'hui.
Oui, je suis hyper dynamique, vous avez vu. Allez, au programme aujourd'hui, dans notre grand dossier du jour, nous allons parler de sport pendant et après la grossesse. Et oui, c'est pas parce qu'on porte un bébé dans son ventre qu'il ne faut pas rester en mouvement. Alors, il sera pas question de préparer les Jeux Olympiques non plus, mais nous verrons comment garder un corps tonique, même enceinte, et surtout après. Et oui, après, c'est important. Comment retrouver la ligne sans aucun régime? Et oui, ce mot sera interdit aujourd'hui. Ça ne sert à rien, les régimes, de toute façon. C'est dangereux, c'est pénible. Alors, pour nous guider dans cette mission, notre invitée du jour, ce sera la coach sportive Jessica Mellé. Elle sait de quoi elle parle. Elle aussi, elle est la jeune maman de petites jumelles de 8 mois. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, le docteur Jimmy Mohamed nous parlera de l'impact des écrans sur nos yeux. Car la surexposition, surtout en cette période, pourrait nous rendre myopes. Mais aussi, attention aux tablettes et autres smartphones si vous avez des problèmes de sommeil. Alors Jimmy, bien sûr, nous donnera ses meilleurs conseils. Et puis vers 15h50, comme tous les jours, on retrouvera la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle parlera de sexualité dans le couple après une infidélité.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer par cette question de Thomas. Écoutons-la.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Vous avez parlé dans une émission dernièrement d'arthrose, de stimuler un nerf. Je ne sais plus lequel justement pour traiter l'arthrose, enfin les rhumatismes de manière générale. Et pour le coup, je suis très intéressé. Comment on peut en bénéficier? Est-ce que c'est déjà possible ou c'est encore un test?
Alors, pour vous répondre avec précision, Thomas, nous avons interrogé pour vous le spécialiste du sujet qui en avait évoqué la question sur ce plateau. C'est le professeur Francis Berenbaum. Il est chef du service de rhumatologie à l'hôpital Saint-Antoine à Paris.
Il faut savoir que pour le moment, c'est au stade de la recherche. Donc, il y a des essais cliniques en cours. On est en train de faire une étude dans l'arthrose des mains, une forme particulière qui est une arthrose un peu plus inflammatoire. Et là, on va tester si cette stimulation du nerf vague peut avoir un intérêt dans l'arthrose. Mais vous voyez, on est quand même au stade de l'étude clinique. Pour le moment, on ne peut pas comme ça le proposer à tous nos patients. Si jamais l'essai est positif, alors dans ces cas-là, étant donné que ce n'est pas un médicament, on est dans le cadre d'un dispositif, eh bien, on peut considérer que d'ici, on va dire, 3-4 ans, et ça pourrait être à disposition. C'est toujours difficile d'aller faire de faux espoirs en disant, voilà, ça va révolutionner. Je pense que ça peut être une arme supplémentaire, en particulier quand on ne peut pas prendre de médicaments parce qu'on a trop de contre-indications. Et dans ces cas-là, eh bien, ça pourrait peut-être avoir un intérêt.
Voilà, c'était le professeur Berenbaum au micro de Valentin Piovesan. Alors Jimmy, on va passer à une autre question, la deuxième du jour, celle que nous a laissée Mathilde pour vous. On l'écoute.
Lorsqu'on fait un PCR, quelquefois après un mois après avoir été malade du Covid, pourquoi est-ce que le test continue à être positif? Et quand je dis un mois, je crois que l'exemple auquel je pense est plutôt 6 semaines après les premiers symptômes.
Alors Jimmy, c'est vrai que c'est étonnant. Je sais pas, quand on a le Covid, c'est en gros, on nous dit 7-10 jours d'isolement pour éviter de contaminer les autres. Comment le test PCR peut-il être encore positif un mois, voire plus après?
Alors ça dépend de certains patients. Certains patients vont malgré tout garder une petite excrétion du virus avec des débris du virus. Et la seule chose, c'est qu'on a des techniques de PCR tellement performantes qu'on peut détecter des toutes petites particules qui ne sont plus contagieuses, mais que vous allez excréter pendant un moment, raison pour laquelle...
Espèce de trace quoi, de virus.
Exactement.
Qui sont encore dans l'organisme.
On vous disait initialement, lorsque vous avez une PCR positive, ne vous faites pas un test de contrôle. C'était valable avant pour le coronavirus classique, car si jamais c'est positif de nouveau, eh bien, on ne saura pas comment faire. Et surtout, ça ne prouve pas votre contagion, mais dans certains pays, vous êtes bloqué tant que vous avez une PCR positive, puisque certains pensent que vous êtes contagieux. Or, ce n'est pas le cas.
Vous dites, c'était avant, aujourd'hui, avec les variants, ça change un peu la donne, c'est
alors,
ça?
Ça change tous les 3 jours. C'est très difficile, même pour nous, médecins, de se tenir informés. La vaccination, on change de recommandation tous les 4 matins. Et en ce qui concerne les PCR, si jamais vous avez un variant brésilien ou sud-africain qui est positif, on estime à peu près 5% des PCR positifs actuellement,
ouais.
Donc c'est pas mal, eh bien, vous devez faire un test de contrôle à 7-10 jours pour être sûr que cette PCR est négative, pour vous permettre de lever ensuite l'isolement. En revanche, on ne fait pas ça pour le variant anglais. Donc, c'est vous dire le casse-tête actuel qu'on vit.
C'est compliqué même pour vous les médecins, on l'a compris. Est-ce que ça veut dire, par exemple, que les personnes qui ont ces fameux, vous savez, ces Covid longs dont on parle, ces gens qui ont des symptômes du Covid qui peuvent durer 7, 8 mois après, est-ce que ces gens-là, du coup, ça veut dire qu'ils ont peut-être potentiellement cette débris de virus encore en
c'est
eux
intéressant ce que vous dites.
Est-ce qu'ils sont potentiellement contagieux?
Pour une fois, j'ai
un truc intéressant.
Non, mais c'est parce que ces Covid longs dont on parle, mais non, dont on ne parle pas.
Ouais.
Dans la plus grande indifférence générale,
on est en train de créer
10 à 15% de Covid longs chez des jeunes qui ont 30 piges, ils vont bien, ils n'ont pas de problème de santé, mais ils vont avoir des symptômes pendant très longtemps. Au rythme actuel qu'on a, on est en train de créer des milliers de malades chroniques dans la plus grande indifférence générale et on ne comprend pas bien le mécanisme. Alors, il y en a plusieurs, je vais faire très simple. Le premier, c'est peut-être un syndrome post-viral, après la mononucléose par exemple. Mm-hmm. Vous êtes épuisé pendant de nombreux mois.
Mais on n'est pas contagieux pour les autres.
On n'est plus contagieux du tout. En revanche, il y a peut-être des mécanismes qu'on ne comprend pas, raison pour laquelle il faut limiter au maximum l'épidémie et pour ça, certains demandaient un confinement, d'autres qu'on accélère la vaccination. Mais le Covid n'est pas une maladie anodine. Même si vous vous tapez que 2-3 jours de fièvre, il n'est pas dit que vous n'ayez pas des symptômes pendant plusieurs semaines.
Donc protégeons-nous, les gestes barrières, bien évidemment, et la vaccination. Merci beaucoup, Jimmy. Alors si vous aussi, comme Mathilde qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, place à notre invitée du jour, c'est Jessica Mellet, coach sportif et co-autrice de la méthode T12S, transformation en 12 semaines. Un bouquin dont les ventes explosent depuis quelques semaines. Aujourd'hui, avec elle, on fera le point sur comment rester en forme physique pendant et après une grossesse, comment retrouver son corps d'avant sans aucun régime et en bougeant de façon adaptée. On va tout vous expliquer, à tout de suite sur Europe 1. Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invitée pour le dossier du jour. C'est vous Jessica Mellet, bonjour.
Hey, salut, c'est Jessica, votre coach de fitness et je suis ravie aujourd'hui de vous conseiller sur Europe 1.
Très bien, allez, coach sportive, on l'a compris. Mais surtout, vous êtes la co-autrice avec Alexandre Mallier du livre T12S, transformation en 12 semaines qui est paru aux éditions Larousse. Un livre qui cartonne, faut dire ce qui est depuis sa sortie. Et je rappelle que la promesse de votre livre, elle est plus que séduisante puisque c'est la perte définitive du gras sans régime, sans faire des heures de sport. Et justement, puisque c'est notre sujet du jour, est-ce que ce programme, on peut éventuellement le débuter si on est enceinte ou qu'on vient d'accoucher?
Alors, ce programme, il ne convient pas pour les personnes qui sont enceintes, simplement parce qu'on fait de la haute intensité et qu'on ne va pas conseiller à la femme enceinte de faire de la haute intensité au point de vue cardio, au point de vue des sauts, bien évidemment. Mais par contre, on peut quand même reprendre certains mouvements qui figurent...
La
philosophie globale. Alors, pour l'alimentation, c'est certain, on peut la faire, puisque que l'on soit enceinte, âgée, jeune, peu importe, c'est une alimentation santé, T12S. Donc, tout le monde peut la faire, il n'y a aucun souci.
Alors, on va parler un peu de vous, parce que justement, ce sujet vous a concerné récemment. Vous avez eu des jumelles il n'y a pas très longtemps. Alors, je ne vais pas m'attarder du tout sur votre corps, parce que ça va être très maladroit de ma part, mais on n'a pas
l'impression...
Franchement,
ça ne se voit pas. Il y a 8 mois, moi, je vous le dis. On dirait qu'elle n'a jamais accouché.
Enfin, oui, il y a 8 mois, d'accord. Donc, okay.
Moi, je n'étais pas comme ça, 8 mois après, ça, c'est clair.
J'ai pris 22 kilos.
En plus,
j'ai pris 22 kilos pour ma seconde grossesse.
Et vous en avez perdu 42, là, non, c'est ça?
Non, non. J'en ai perdu 19. Il m'en reste 3 à perdre, mais en réalité.
Derrière les oreilles, donc.
Non, le poids, il m'importe peu. Ce que je veux, c'est retrouver la santé, me sentir bien dans les baskets, dans mon corps, ne pas me blesser. C'est surtout ça qui m'intéresse. Mais en réalité, quand on est enceinte ou que l'on vient d'accoucher, ce qui convient, c'est de faire un programme adapté. Et ça, on le trouve sur moveyourfit.com, si on veut un programme adapté vraiment à la femme enceinte.
Vous en avez fait plein des vidéos, d'ailleurs, vous, quand vous étiez enceinte.
Oui, tout à fait, j'en ai fait donc, sur YouTube, sur la chaîne YouTube Moveyourfit. Vous avez des vidéos qui conviennent à la femme enceinte, savoir prendre conscience de son périnée, mais aussi pas seulement faire un focus sur le périnée, mais s'intéresser à l'ensemble de son corps et sa bonne condition physique générale. Donc, tous ses muscles, son cœur, son bien-être aussi mental, ne pas s'oublier en tant que femme.
Bon, quand on vous voit, on se dit, bon, ok, elle est peut-être partie avec un avantage de départ quand même. On va parler un petit peu de physiologie. Votre métier, c'est d'être coach sportif. Donc, on n'est peut-être pas toutes égales, on va dire, par rapport à la grossesse et à l'impact que ça peut avoir sur notre corps. Est-ce que pour les non-sportives, par exemple, les femmes qui vont être enceintes tout d'un coup, voilà, ça arrive un jour, qui n'ont jamais fait de sport, est-ce que ça peut être le moment, au moment de la grossesse, de dire, tiens, maintenant, je vais bouger?
Il n'y a jamais de mauvais moment pour se prendre en main et commencer à faire du sport. Après, c'est certain que ce n'est pas au moment où on tombe enceinte qu'on va envisager de perdre le gras définitivement. C'est certain. Par contre, prendre conscience de son corps dans l'espace, prendre conscience de son périnée, prendre conscience de tous ses muscles, se bouger, ça ne peut que faire du bien, ça c'est certain.
Alors, on parlera de remise en forme après avoir eu le bébé, mais le premier conseil que vous donnez, il est tout simple. c'est pendant la grossesse, eh bien, de rester actif.
Active au maximum. Quelques minutes par jour suffisent. 10 à 15 minutes, un petit peu tous les jours ou presque. Ça permet voilà, de bien prendre conscience de son corps, de ses muscles, de rester en forme, de faire intervenir son cœur. Tout ça, c'est important pour la mobilité aussi. Et aussi pour se sentir bien lors de son accouchement et éviter les blessures lorsqu'on est au quatrième trimestre.
Ah oui, au quatrième trimestre, c'est clair.
Et oui, on a accouché. Et puis en réalité, les muscles se sont ramollis parce qu'on n'a rien fait pendant la grossesse.
Parce qu'on veut maigrir, mais c'est
et
pour
oui, non, pas du non, tout. En fait, pas. Il faut reprendre petit à petit. Mais si on a gardé une bonne tonicité, qu'on n'a pas trop eu de fonte musculaire pendant la grossesse, eh bien, du coup, on se remet beaucoup plus rapidement de sa grossesse.
Vous, c'est votre métier quand même de bouger, d'être très
oui,
physique.
Oui, bien sûr, mais je n'avais pas une athlète.
Voilà, mais est-ce que vous avez réussi à le faire pendant les 9 mois de grossesse? Vous avez porté des jumelles, vous l'avez dit, 22 kilos pendant la grossesse. Même avec 22 kilos, on peut bouger encore.
Alors,
en
moi,
plus.
J'ai fait du sport jusqu'à 7 mois et demi exactement. J'ai eu une cholestase gravidique pendant mon deuxième et troisième trimestre.
Une complication de la grossesse. Donc
une complication.
Là,
on a tous des plus ou moins
dans
des complications.
C'est bien sûr très particulier.
Oui, voilà, c'était particulier. Bon, bah, mon symptôme, c'était principalement.
Mais quand on vous voit
fatigue.
7 mois et demi de grossesse, moi, j'ai regardé des vidéos. En fait, vous êtes comme moi, j'étais quand j'en portais un, hein, parce que j'avais un très, très gros ventre hein, quand même.
Et pourtant, j'étais certainement à 20 kilos déjà à 7 mois et demi. Mais en réalité, voilà, j'ai bougé. Le maximum que j'ai pu, tant que notre médecin nous autorise à faire du sport, tant qu'on se sent bien, qu'on a l'écoute de son corps, on reste en mouvement.
Alors, votre programme T12S, il y a un volet alimentation et on va dire un mot, hein, c'est pas vraiment un régime, c'est pas du tout un régime. Vous allez nous expliquer les bases, mais est-ce que c'est adapté, par exemple, à ce que doit manger une femme lorsqu'elle est enceinte?
Tout à fait, s'adapter à la femme enceinte et comme je disais tout à l'heure, à tout le monde, parce que dans T12S, on apprend à comment manger pour être en bonne santé et on n'attend pas d'être enceinte pour demander comment.
Il n'y a aucun aliment interdit, parce que alors, quand on est enceinte,
interdit.
On peut avoir quelques petites lubies. Hein. Moi, c'était la pastèque, hein. Je sais pas, c'est pas très calorique, mais il y avait aussi le Nutella. Enfin, vous avez
de la chance avec voilà. La pastèque, parce que moi, c'était les bonbons, les gâteaux au chocolat.
Et vous les avez mangés alors? Parce que T12S,
oui,
il n'y a pas de recette
oui,
de bonbons.
Oui, j'en ai mangé,
hein,
parce que vous savez, il ne faut pas trop contrarier une femme enceinte. Hein.
C'est ça. Vous avez 3 enfants, hein, donc vous avez...
Bah, j'ai pris du poids moi aussi avec la grossesse, hein, c'est comme c'est ça, j'ai accompagné, j'ai mangé moi aussi. Et d'ailleurs, on revient un peu à cette histoire de régime, est-ce que vous, de votre côté, vous avez toujours eu cette ligne ou est-ce que vous avez aussi fait des régimes par le passé? Et avec l'effet yo-yo, malheureusement, que tout le monde redoute, et c'est un peu une fatalité d'ailleurs.
Oh oui, j'ai fait un régime terrible quand j'étais à la fin de mon adolescence. J'ai perdu 3-4 kilos pour une compétition de body fitness, et après j'en ai repris 10.
Ah oui,
et j'ai eu des troubles
ça,
du comportement
régimes, hein,
alimentaire avec. Et après je pensais qu'à manger du sucre, c'était insupportable parce que mentalement, on se sent prisonnier de cette envie de manger
accro,
sucré tout
ouais.
le temps, exactement. Mais en réalité, ça, on peut vraiment le combattre et en arriver à bout en mangeant sainement au fur et à mesure du temps. Et en éliminant étape par étape
j'allais vous dire,
les aliments qui ne sont pas
les bases de l'alimentation, du volet alimentation de T12S, votre programme. Comment vous le résumeriez? C'est quoi les aliments sur lesquels on va miser plutôt? Parce que l'idée, ce n'est pas d'interdire. Ok, il y aura peut-être des petits accros, un petit peu de chocolat, un petit peu de bonbons au départ. Mais après, on va se déshabituer en privilégiant les bons aliments. C'est quoi la base de T12S alimentation?
La base de l'alimentation T12S, c'est déjà de manger qualitativement. On choisit des produits de qualité, naturels, de saison, dans la mesure du possible, bio dans la mesure du possible, mais aussi de manger à sa faim dans les bonnes proportions. On aura toujours une assiette bien équilibrée. On n'élimine pas une catégorie de nutriments en particulier. Notre corps, il a besoin de tout, donc on mange de tout. On ne s'interdit rien pour ne pas créer de frustration.
Une bonne recette de cookies dans le bouquin, je vous la conseille.
Exactement, mais il y a un temps pour tout. On peut manger de tout, tant que ce n'est pas transformé, que c'est fait maison, des aliments naturels. On peut manger de tout, de façon raisonnable, je dirais, mais on ne s'interdit rien.
Mais justement, parce que quand on est enceinte...
Jimmy, il aime bien quand il n'y a rien interdit niveau alimentaire,
oui,
ça lui plaît bien.
Est-ce qu'on peut se faire plaisir aussi? Parce que la grossesse, ça reste aussi une contrainte par moment, hein, soit parce qu'on ne la vit pas tous forcément ou toutes très bien. Est-ce qu'on peut malgré tout se faire plaisir en mangeant de façon équilibrée si on prend... le programme T12S, par exemple.
Ah oui, si on ouvre un petit peu le bouquin T12S, on se rend compte qu'il y a des recettes qui sont gourmandes et on peut assouvir ses envies de chocolat, de fruits, de façon équilibrée dans les recettes T12S, avec des indices glycémiques qui sont plutôt bas en utilisant la patate douce. Voilà, il y a vraiment
des bons sucres, des bonnes farines.
Tout à
ça,
fait.
Hein, mais du coup, ça reste quand même gourmand. Pour les femmes qui nous écoutent, qui ont peut-être un projet bébé, hein, il n'est peut-être pas là encore, est-ce que justement, la grossesse niveau alimentation, on terminera là-dessus. C'est pas aussi le moment finalement de tout remettre à zéro, puisque après, on va avoir un bébé à nourrir, et puis c'est un bon moment pour remettre l'assiette complètement à neuf, je pense.
Oui. Mais j'ai loupé le la première partie de la question.
Est-ce que c'est pas le moment, la grossesse, finalement, de commencer tes 12 S niveau alimentation, puisque c'est un bon moment, on va avoir un bébé, une famille à nourrir.
Alors, c'est le bon moment, ouais. C'est le bon moment. Oui, alors c'est bien de se remettre en marche au fur et à mesure du temps. Hein, quand même, on a vécu une grossesse, on va pas rattaquer tes 12 S du jour au lendemain. Il y a la rééducation du périnée, nous l'oublions pas. Donc, on peut faire des mouvements avant la rééducation du périnée, puisque l'idée, c'est vraiment quand même de rester en mouvement. On ne s'interdit pas à faire du sport. Mais une fois cette rééducation faite, tout à fait, on peut reprendre tes 12 S sans problème.
Eh bien, on va venir. Jessica, nous allons poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans son rendez-vous, on va passer à la pratique à présent. On va se mettre tranquillement en mouvement. Et oui, que vous soyez mesdames sportives ou pas, on peut se transformer même pendant la grossesse. Gardez un corps tonique et en forme. Surtout, ce sera bon pour vous et pour bébé. En plus, on vous détaille comment vous y prendre dans quelques toutes petites minutes. A tout de suite sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors, notre invitée, toujours en studio avec nous, c'est vous, Jessica Mellet. Vous êtes coach sportif et la co-autrice avec Alexandre Mallier du livre T12S, transformation en 12 semaines, qui est paru aux éditions Larousse. Notre sujet du jour avec vous, c'est comment rester en forme pendant la grossesse, parce que là, la transformation du corps, on ne peut pas tout contrôler, elle va être inévitable, hein, le ventre, il va forcément s'arrondir. Bon, et ça c'est super, hein, mais du point de vue sportif, comment ça se passe? Rappelons-le, comment on peut rester en mouvement vraiment du début à la fin?
Alors c'est vrai qu'on ne va pas faire la même chose au premier ou deuxième ou au troisième trimestre. En réalité, moi ce que je conseille aux femmes en général, c'est de ne pas faire de saut pendant la grossesse, de prendre conscience de son périnée, parce que très souvent les femmes découvrent leur périnée quand elles tombent enceintes. Hein, et puis donc il faut savoir l'engager, il faut savoir aussi le décontracter, mais surtout ce qui est important c'est de rester donc en mouvement. Donc au premier trimestre, on peut à peu près faire pas mal de choses, on peut faire encore un petit peu de gainage. Au second trimestre, on va déjà,
on arrête les abdos. Hein.
Voilà, on arrête totalement de solliciter ses abdominaux. On peut encore engager un peu le périnée, mais on va aussi.
Ça veut dire quoi engager le périnée? Comment on en va? Quel exercice nous fait engager le périnée, par exemple?
En fait, votre plancher pelvien, donc ce sont des muscles qui soutiennent véritablement
les organes.
Les organes, tout à fait. Et l'engager, ça va être un mouvement comme si vous vouliez le raccourcir, donc le rapprocher. Donc c'est comme si on voulait arrêter de faire et la miction et d'aller aussi à la selle.
Mais et dans un exercice qui engagerait, ça serait quoi? Quel exercice sportif je peux faire qui engage mon périnée?
Eh bien, vous pouvez aussi rester comme ça, sans rien faire, là, et engager
rien,
et votre périnée. Là, vous êtes assise, vous pouvez engager votre périnée.
J'ai rien engagé du tout.
Voilà.
Là, mais d'accord.
Vous imaginez que vous arrêtez de faire pipi, que vous arrêtez aussi de faire la selle. Si je grossis entre guillemets, hein, je raccourcis un petit peu en faisant ça, mais ça à peu près, c'est à peu près ça.
Jimmy, il est engagé le vôtre là.
Alors,
c'est bon,
non, mais Mélanie fait une fixation sur le périnée, mais quand on est enceinte, évidemment, faut y prêter attention. Mais du coup, au premier trimestre, vous avez dit, on fait attention au sport de contact et de choc. Puisqu'on sait que pendant le premier trimestre, il y a un risque de fausse couche et la femme enceinte pourra croire que c'est à cause de son sport qu'elle a fait une fausse couche. Peut-être que c'est le cas, mais elle va avoir cette culpabilité de se dire « Ah ben, j'ai fait un truc important, j'ai eu un saignement, c'est de ma faute si j'ai perdu mon bébé. » Or, ce n'est pas de sa faute, c'est la nature qui fait ça malheureusement.
Sont très fréquentes, hein.
Les fausses couches au premier trimestre sont extrêmement fréquentes. Elles sont liées à des anomalies chromosomiques et donc c'est des bébés qui ne sont pas viables malheureusement. Et donc la nature
c'est pas
est tristement...
qu'on a marché, c'est
exactement,
pas,
ouais. La nature est tristement bien faite et à ce moment-là, la fausse couche arrive. Mais du coup, concrètement, est-ce qu'elles peuvent faire... Alors la piscine, c'est compliqué en ce moment, mais vous leur conseillez quoi? La course à pied, peut-être pas trop, de faire... Vous avez parlé du gainage, mais quel exercice simple elles peuvent faire au quotidien lors du premier trimestre?
On peut faire des mouvements de fitness tout simplement à la maison. On peut bouger ses bras, on peut bouger ses jambes. On peut encore faire pas mal de mouvements de gym finalement qui ne font pas pousser le ventre, qui ne font pas faire soulever de charges importantes ou faire de grandes flexions. Il y a des mouvements qui sont adaptés réellement de gym que l'on peut faire.
Parce que dans tes 12 S, donc vous l'avez dit, c'est de la haute intensité, c'est du HIIT, H-I-I-T si je le
tout
dis
à
bien.
Fait.
Ça vraiment pour le coup, moi j'en ai fait, j'en ai testé quelques-unes des vidéos. C'est pas long, c'est souvent 8, 9, 10, 12 minutes d'exercice assez intense, on a le cœur qui bat vite. Est-ce qu'on peut pas aller faire ces séances de HIIT, mais juste sans sauter, moins vite, quoi, en fait, quand on est enceinte?
Alors, c'est vrai que l'intérêt du HIIT, c'est d'aller flirter un peu avec ses limites au niveau de l'essoufflement, au niveau de l'augmentation de sa fréquence cardiaque, de mettre ses muscles, effectivement, tout ça en haute intensité. En réalité, la femme enceinte ne peut pas réaliser tout ça. Elle ne doit pas être trop essoufflée, ne doit pas faire trop souffrir ses muscles. Donc, on peut faire les mouvements, certes, mais encore une fois, en étant à l'écoute de son corps et ne pas flirter avec ses limites, en restant très modéré.
Et justement, à quel rythme on peut faire de l'activité physique? Est-ce qu'il faut faire ça 3 fois par semaine comme d'habitude? Je crois d'ailleurs, dans votre programme, c'est 4 fois par semaine. Est-ce que, alors sans parler du programme HIIT à ce moment-là, mais elles doivent faire ça plutôt tous les jours ou se dire, allez, je me fais ça 3 fois par semaine? Est-ce qu'il y a un rythme d'ailleurs? Peut-être qu'il n'y a pas de rythme.
Il n'y a pas vraiment de rythme. Tant qu'on se sent en forme, on conseille de
tant
bouger.
Que c'est plus que vous, Jimmy, c'est bien.
C'est vrai, on conseille de bouger. Si on se sent en forme, bougeons. Alors, c'est bien de faire effectivement 3-4 séances par semaine. Ça nous permet d'être réguliers. Mais finalement, c'est comme un rythme, comme quand on n'est pas enceinte.
Alors, au deuxième trimestre de la grossesse, là, on est souvent plus en forme d'ailleurs qu'au premier. Mais par contre, le ventre, forcément, il s'est un petit peu arrondi. Mais la grossesse est a priori bien accrochée. Est-ce qu'on peut continuer avec les mêmes mouvements qu'on faisait au premier trimestre? Ou là, pour le coup, c'est à partir de là que les sauts s'est terminé? Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire au deuxième trimestre? Qu'est-ce que vous faisiez, vous, au deuxième trimestre, par exemple?
Alors, au deuxième trimestre, c'est plutôt les mouvements abdominaux, gainage, qui vont se voir diminuer totalement, presque, voilà.
On peut travailler debout sur plein de choses.
On peut travailler debout, on peut encore bouger, on peut encore tonifier ses cuisses, ses fessiers, ses bras, ses épaules, son dos. Tout ça, c'est important de renforcer le haut du corps, parce que quand on va devoir porter son bébé, le sac allongé...
C'est bien d'avoir un dos musclé, quand même. Hein,
exactement, d'avoir des épaules bien mobiles, d'avoir un dos vraiment fort. Donc tout ça, on ne peut pas se permettre, entre guillemets, que ce soit trop relâché et laisser passer plusieurs mois. Ce serait vraiment dommage de se blesser avec un petit bébé dans les bras.
Et est-ce que vous conseillez d'être accompagné ou est-ce qu'on peut commencer l'activité physique seule quand on est enceinte? Parce que peut-être on va aussi commettre certaines erreurs. Est-ce que c'est mieux d'avoir un coach? Et d'ailleurs, est-ce que vous avez pensé peut-être à faire des sessions avec que des femmes enceintes pour tout ensemble apprendre des petits gestes ou des postures qu'il faut faire ou ne pas faire?
Alors justement, je ne conseille pas de faire forcément seul les choses parce qu'on le fait avec son instinct et ce n'est pas forcément bon, on ne va pas forcément faire les bons mouvements. C'est pour ça que j'ai créé un programme spécialement pour la femme enceinte que vous trouvez sur moveyourfit.com dans lequel je fais des sessions pour chaque mois de la femme enceinte puisque, à mon sens, chaque mois doit avoir ses mouvements bien particuliers.
Alors justement, au troisième trimestre, là pour le coup, le ventre, il peut être énorme, hein. Vous attendiez des jumelles, donc on imagine qu'il a été à un moment donné très 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 gros. Vous êtes arrêté certes à 7 mois et demi, mais à 7 mois et demi, c'était comme une grossesse qui va à 9 mois, quoi, on va dire, pour des jumelles. Qu'est-ce qu'on peut faire encore à ce stade-là, quand vraiment on est au bout du bout? Là, ça va être quoi? Assis? Parce que là, même debout, ça devient compliqué avec un gros gros ventre. Hein.
On fait encore de la mobilité, des étirements, et puis on a besoin aussi de prendre du temps pour soi, de se recentrer, de méditer, de se sentir bien. Alors, ce sont des sessions qui sont un petit peu plus courtes, hein, sur la fin.
Elle propose des sessions de 30 secondes, Jimmy. Juste histoire de bouger un tout petit peu. Il y a quoi dans les vidéos du 8e mois de grossesse, par exemple?
Beaucoup de mobilité. Beaucoup de mobilité. Et puis aussi du renforcement, plus léger. Voilà, on y va vraiment poids de corps parce que le poids du corps pèse lourd.
C'est ça. Il y en a deux, là, de corps.
Alors, on parle là du bien-être, mais est-ce qu'on peut aussi imaginer que le sport ait des vertus pour la grossesse en tant que telle et d'éventuelles complications, éviter... Si jamais on fait un peu de prédiabète, peut-être de réguler mieux sa glycémie, est-ce que ça peut aussi vous parler de périnée, préparer à l'accouchement? Est-ce que finalement l'activité physique prépare de la meilleure façon possible l'accouchement?
Eh bien, vous venez exactement de le dire. L'activité physique prépare de la meilleure façon possible l'accouchement. C'est clair, savoir engager, relâcher son périnée, avoir fait du sport aussi si on a un diabète gestationnel, c'est le top. Adapter son alimentation pour qu'elle soit la plus saine possible pour maman et bébé. Voilà, prendre soin de soi.
Est-ce
finalement
qu'on néglige l'impact de l'alimentation de la maman sur le bébé à venir sans les culpabiliser? Je vous en avais parlé, mais une maman qui aura consommé des produits ultra transformés pendant sa grossesse donnera à un enfant dans les 5 premières années de la vie plus colérique, plus capricieux, plus difficile à gérer.
Avec un risque d'obésité plus important aussi
et
pour l'enfant.
Exactement. Hein, ouais. Donc ça veut dire vraiment que c'est un capital santé, c'est un vrai investissement, c'est pas une contrainte. C'est
pour
un investissement.
Pour sa vie à soi et celle de son enfant. Très bien. Jessica, on va continuer cet entretien dans quelques minutes. Vous êtes sur Europe 1 dans Sans Rendez-vous. Elle nous accompagne cet après-midi. C'est vous, Jessica Mellet. Je rappelle que vous êtes coach sportif et qu'on prend soin des femmes avec vous aujourd'hui, notamment de celles qui viennent d'accoucher à présent. Alors, après la naissance d'un bébé, là, pour le coup, moi, j'ai quelques petits souvenirs. Le postpartum, c'est quand même une période qui est assez difficile à vivre pour les femmes. Hein. Comment... Enfin, je ne dis pas le bébé, c'est génial, mais quand on se regarde dans une glace, ça peut être parfois un peu difficile, un peu douloureux. Le ventre, il est mou, il est vide, il n'est pas très joli à voir parfois. Quels conseils, déjà, on va dire, d'un point de vue global, de philosophie, on va dire, vous donneriez aux femmes qui nous écoutent en postpartum, on va dire?
C'est de la patience, de l'indulgence avec soi-même. On vient d'offrir la vie. C'est beau, Oui, donc il faut voilà, être patient avec soi-même. Les tissus, ils vont mettre une petite année à se remettre en place.
Ouais, une année, il ne faut pas se presser. Quoi,
non, il ne faut pas se presser. Alors, il faut, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais il faut être indulgente avec soi-même. On ne se met pas d'horloge, on ne se met pas d'objectif inatteignable.
Un
on
an,
est cool.
Un an, c'est pas mal. Quoi.
Un an, c'est pas mal.
Oui, moi, je suis très indulgent avec moi-même. Je prends tout mon temps et je ne prends aucun risque. Et
justement, mais là, il n'a pas déjà 2 ans, votre fils, le dernier là.
Il va avoir 2 ans, effectivement. Ouais, il serait peut-être temps de se remettre au sport. Surtout que ce n'est pas moi qui ai accouché, donc je pense que je n'ai aucune raison valable d'être inactif. Et justement, après l'accouchement, au bout de combien de temps on peut dire à une femme bah, que c'est bon, elle peut reprendre de l'activité physique? Vous avez parlé tout à l'heure de l'importance du périnée. Et au bout de combien de temps on peut le faire de façon un peu plus sereine?
Alors c'est bien de distinguer activité physique, sport, etc. Parce que dans l'esprit des gens, le sport parfois c'est de courir un 10 bornes, c'est de faire un Ironman ou des choses comme ça. Et en réalité, l'activité physique c'est aussi bah, la mobilité, se bouger doucement, tranquillement. Il y a du sport qui est doux en réalité. On
vous,
peut
c'est
le
dès
reprendre.
Le retour de la maternité en fait.
Moi, très honnêtement, après mes jumelles, j'ai repris 10 jours après le sport après parce que je me sentais bien. J'ai eu un accouchement en voix basse. Je
n'avais pas préparé les Jeux Olympiques non plus.
Non, ouais. Je ne suis pas une athlète. Comme je vous ai dit, j'ai fait du sport toute ma grossesse tranquillement, à l'écoute de mon corps, sans le brutaliser.
Et au bout de 10 jours,
j'en avais envie en fait. Ouais. J'avais envie de faire quelque chose pour moi et de me sentir bien. Eh bien, j'ai fait des exercices de respiration, d'engagement du périnée, des étirements, m'auto-grandir, faire des mouvements lents. Mais ça, ça m'a permis à moi de reprendre conscience de mon corps, de mes muscles. Et au fur et à mesure des jours qui sont passés, j'ai pu faire des exercices un petit peu plus élaborés, voilà, en douceur progressivement. Et quand je suis arrivée le jour, le premier jour de ma rééducation du périnée, eh bien, la kiné m'a dit « Waouh !»
Au revoir madame.
Elle m'a dit « Bon, en 5 séances, ça va être bon, vous, il n'y a pas grand-chose à faire.
» Tant mieux.
Eh oui.
Mais comment est-ce que vous trouvez l'énergie de... Parce que c'est compliqué quand on a accouché déjà un enfant. Alors des jumelles, de trouver l'énergie pour garder cette forme et pour conserver justement ce temps qu'on a à faire du sport. Parce que c'est un sacrifice. Hein,
c'est
ouais, là, rien que vous dire la question, oui, vous avez non, vu la difficulté
vrai.
Avec laquelle c'est j'ai
vrai.
Eu...
Ça a été douloureux.
C'était douloureux, mais juste de poser la question. Parce que j'imagine la souffrance que ça peut être.
Alors en fait, moi je me mettais en tenue de sport dès le matin. Parce que je ne savais, pas combien de temps j'aurais devant moi. Ça peut être parfois 5 minutes, 10 minutes. Alors parfois, quand je couchais mes filles, j'allais dormir. Et parfois, j'allais faire un petit peu de sport pour moi. Parce qu'en réalité, faire du sport, ça donne de l'énergie. Parfois on se dit, ah dormir. Alors en fait, on dort.
On a tous vécu ça.
On
en
dort
vérité,
et puis on est toujours
sport,
autant fatigué. Ouais. On est toujours autant fatigué. Et en réalité, de parfois faire 5-10 minutes de sport, ça m'apportait plus d'énergie que de dormir quelques minutes.
Pourtant, c'est ce qu'on dit aux femmes. Aux femmes, hein, quand elles viennent d'accoucher, dormez quand le bébé dort, puisque la nuit, c'est parfois un peu la guerre.
Bah, elle dit d'accord, mais aussi du sport.
Mais aussi du sport, c'est vrai. Ouais. Et pas le ménage, parce que des fois, on se dit, bon, bah, j'ai le temps, j'ai 5 minutes, une demi-heure, bah, je vais aller ranger la baraque. Bah,
ah ouais, non, ça, le ménage, si vous voilà, demandez de l'aide autour de vous si on veut vous aider. C'est pour faire le ménage.
C'est un très bon conseil. On fait souvent un focus, et bon, honnêtement, c'est à juste titre, hein, sur le ventre. Hein, c'est le ventre qui nous préoccupe en général. Il est tout mou. On voudrait remettre ce corps en mouvement et donc perdre ce ventre, perdre le gras sur le ventre. Mais vous dites qu'on ne peut pas le perdre de façon localisée. Donc en gros, ne faites pas de fixette sur le ventre, ça ne sert à rien. Bougez tout court et tout fondra en même temps, en fait.
Exactement, Mélanie. En réalité, il ne faut pas faire un focus sur le ventre parce qu'effectivement, ça va être long à se remettre à cet endroit-là puisque les abdominaux, ils se sont écartés. On est là à attendre après ce ventre, on se dit ah mon ventre, et en fait il faut perdre de partout, donc il faut travailler tous ces muscles, c'est quelque chose de global, la perte de gras, vous allez perdre le gras sur tout votre corps et pas seulement au niveau du ventre.
Ou sinon faites comme moi, ne le perdez nulle part, l'urée ça ira très bien. Et justement dans T12S vous proposez des cours. Et j'ai le souvenir d'une session où on peut faire des jumping jacks, donc c'est le saut militaire.
Vous avez un souvenir d'une session?
Si, parce que j'étais voir, j'étais regardé, je me suis dit, je vais m'intéresser. Mais est-ce qu'une femme qui vient d'accoucher, qui a eu sa rééducation du périnée, elle peut sauter un peu, pas n'importe comment, mais est-ce qu'elle peut faire les mêmes exercices que ceux que vous proposez, par exemple?
C'est génial ce que vous dites, parce que ça me permet d'expliquer à quel point la rééducation du périnée, là, c'est limite. C'est pas parce qu'on a la rééducation du périnée qui est faite qu'on peut faire tous les sports et que ça y est, on peut sauter sur un trampoline, faire des jumping jacks. Pour ma part, les jumping jacks, j'en ai fait au bout du 6e mois.
Après
sixième mois après l'accouchement, exactement. Parce que
vous étiez partie faire un jogging, je crois d'ailleurs vous aussi après l'accouchement, après la rééducation.
Après l'éducation, je suis partie faire un jogging parce que je sentais mon périnée bien engagé, tout. J'ai eu aucun problème. Le jumping jack c'est plus fort que du jogging au niveau de l'impact. Et donc forcément, c'est pas quelque chose que je conseille dans l'immédiat. Il faut reprendre les sauts, les impacts au fur et à mesure du temps, être bien à l'écoute de son corps. On ne va pas récupérer tout à la même vitesse. Mais la rééducation du périnée, il faut la faire, c'est certain. Mais ça a ses limites, ça ne permet pas de tout faire, tous les sports. Et aussi, surtout, ce qui est très important après cette rééducation, c'est de l'intégrer dans son quotidien. C'est-à-dire quand on éternue, quand on tousse, quand on court d'un seul coup, quand on porte une charge. C'est vrai que si on ne pense pas à faire ça, eh bien, on a de mauvaises habitudes. Et puis quand on refait du sport à nouveau et qu'on porte une petite charge ou qu'on se met à courir ou faire des jumping jacks, eh bien, mince, on se dit bah, « la kiné m'avait dit que j'avais un périnée tonique et pourtant, je me suis fait pipi dessus ». C'est terrible, c'est très contrariant. Mais voilà, faut y aller vraiment petit à petit.
Je reviens quand même sur le ventre tout mou, parce qu'honnêtement, on a déjà quelques questions même sur Twitter hein, à ce sujet. Le ventre tout mou, ok, on prend le temps, s'il le faut, ça prendra un an. Mais quels exercices vous avez fait par exemple, parce qu'avec des jumelles, vous avez dû l'avoir, le ventre tout mou aussi. Qu'est-ce qu'on peut conseiller quand on est prête à le faire comme exercice typiquement pour rapprocher les abdos, j'en sais rien, en finir avec ce ventre tout mou quoi.
Alors on ne peut pas aller plus vite que la musique. Hein. Les tissus, ils vont se remettre petit à petit. On ne peut pas aller plus vite que le temps. C'est pas possible. Il y a un moment où il faut savoir aussi se reposer. On y va progressivement. On fait des mouvements de gainage de plus en plus difficiles.
C'est
du gainage.
Des planches sur les coudes,
voilà,
par exemple.
Voilà, exactement. Ouais. Du gainage dynamique aussi. On a plein de variantes qui existent hein, sur la planche. On peut bouger les bras, on peut bouger les pieds, les genoux, etc. En faire plus ou moins de façon intensive. Mais toujours est-il que c'est toujours une approche globale que l'on doit avoir. Renforcer tous ses muscles et pas seulement que le gainage, que la sangle abdominale. Hein, c'est important.
Pas que
ça.
Des abdos toute la journée.
Non, non, non. Et puis surtout, un temps limité.
Et si on veut reprendre un peu de cardio, au bout de combien de temps on peut se remettre à courir ou faire du vélo, par exemple ?
Alors en fait, quand on vient d'accoucher, on est essoufflé très rapidement. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas espérer courir, en fait. Quand j'ai repris, moi, au bout de 10 jours, j'ai levé les genoux, j'ai levé les bras tranquillement. J'étais essoufflée déjà.
Quand je montais les escaliers, j'étais déjà essoufflée.
On est essoufflé très rapidement. Donc il faut se laisser du temps, des jours, des semaines, pour à nouveau trottiner et s'adapter à ce souffle.
Comment on gère la balance, on va dire après, dans l'après-grossesse, on peut quand même avoir envie de se peser régulièrement pour voir s'ils partent ces kilos ou pas. Vous l'avez géré comment, la balance et puis le miroir aussi.
On la balance.
La balance.
La balance, ça met super la pression. Moi, j'étais plutôt avec le miroir, c'est-à-dire ouais. Me sentir bien, m'aimer à nouveau.
Ce ventre mou.
Même avec ce ventre mou, voilà. Bon, mais j'étais pas trop exigeante, je me disais, ce corps-là, il n'est que passager.
Mais quand on voit les femmes sur Internet, certaines sur les réseaux sociaux qui s'affichent en jean 36 là, à la sortie de la maternité, certaines influenceuses, tout ça, honnêtement, on a de quoi rager. Comment elles font ces femmes-là ?
Non, mais en fait, soit c'est vive Photoshop, soit tout simplement, elles rentrent le ventre au maximum, et puis ou alors elles
c'est
mettent une gaine, c'est du fake. Oui, ou alors elles se sont affamées, et je suis bien triste pour elles, parce que c'est terrible de s'affamer.
Très bien. Jessica, un grand merci de nous avoir accompagnés cet après-midi. Et pour ceux ou celles hein, qui voudraient en savoir plus, qui sont prêts à changer après un bébé, ou pas d'ailleurs, hein, je vous rappelle, votre livre T12S, transformation en 12 semaines, paru aux éditions Larousse. Merci encore.
Merci à vous.
Dans un instant, notre chronique Les Bobos du quotidien avec le docteur Jimmy Mohamed qui va nous donner tous ses meilleurs conseils pour utiliser les écrans sans faire courir de risques à nos yeux et sans endommager notre qualité de sommeil. Ok pour les écrans, donc, mais avec quelques règles, c'est dans quelques minutes et c'est sur Europe 1. Votre émission Santé et Bien-être sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner tous les après-midi. Et à présent, on va parler de l'impact des écrans, ou plutôt de la surconsommation des écrans sur notre santé, celle de nos yeux notamment, mais aussi sur la qualité de notre sommeil. Et avant ça, on vous a interrogé sur le sujet. Savez-vous ce que provoquent les tablettes ou le trop de smartphones sur notre vision ? Y a-t-il d'ailleurs des écrans plus nocifs que d'autres pour nos yeux ? Benjamin, Valentin Piovesan, on est une grande équipe à présent, a été vous poser toutes ces questions. On écoute tout de suite son micro-trottoir.
Je passe beaucoup de temps, pas devant la télé, mais surtout sur mon téléphone et aussi sur une tablette.
Je regarde les écrans 12 heures par jour.
Que ça soit téléphone, télé, c'est tout le temps, très souvent.
Au court terme, ça peut faire mal aux yeux, donc ouais, je pense que ça a un impact assez conséquent sur la santé. Ouais.
Je suis convaincu que c'est mauvais pour la santé, mais après, c'est toujours pareil, c'est une habitude et puis c'est le train de vie en fait, c'est les études et le quotidien.
Quand on regarde un écran, on cligne moins des yeux, genre il y a la lumière bleue et tout, donc ça doit peut-être pas être super bon pour les yeux.
Sinon, après, il y a des moyens médicaux avec les lunettes anti-filtre lumière bleue.
Tout ce qui défile très vite devant les yeux, ça a forcément une répercussion sur les ondes cérébrales et donc le sommeil.
Je suis sûr que ça a des répercussions sur le cerveau. On est tout de suite plus fatigué, donc que ce soit mentalement, physiquement, ça atteint le cerveau, c'est sûr et certain.
Essayer de nous éloigner un maximum des écrans pour pas qu'on en fasse une habitude quand on devient plus grand.
Ce serait plutôt à chacun de régler son propre temps d'écran et le temps de consultation des écrans, tout simplement.
Jimmy, alors parlons d'abord de nos yeux. Les écrans ont vraiment un impact sur notre santé visuelle ou pas? Qu'est-ce que ça peut provoquer concrètement?
Alors plusieurs choses. Un, des troubles du sommeil, on y reviendra. Deux, de la sécheresse oculaire, puisque derrière un écran, vous n'allez plus cligner des yeux et donc vous allez sécréter moins de larmes qui ne vont pas être réparties de façon homogène sur le globe oculaire. Et troisième chose, eh bien vous allez être myope. On a eu une génération de myopes, notamment en Asie, et en 2050, la moitié de la planète sera myope, en partie à cause des écrans.
Bon, bah super nouvelle, Jimmy. On sait s'il y a un effet dose, par contre, parce que, je veux dire, un enfant de 5 ans, par exemple, qui va regarder quelques minutes par jour un petit dessin animé sur une tablette, est-ce que c'est déjà nocif ou est-ce qu'il faudrait qu'il fixe cet écran, j'en sais pas, des heures et des heures pour qu'il y ait un impact nocif?
Alors, on ne connaît pas exactement l'effet dose. Évidemment, plus vous y êtes, plus il y a un risque. Et puis, il y a une part de susceptibilité, d'hérédité. Si vous avez des parents qui sont très myopes, à ce moment-là, l'enfant est plus à risque. Et peut-être qu'on va accélérer la myopie au travers de ça. Et puis, n'oubliez pas que la tablette, fut un temps, on disait c'est très bien pour les tout petits. Puis, on a dit pas avant 3 ans. Et certains disent pas avant 6 ans. Donc, un enfant de 5 ans n'a strictement rien à faire sur une tablette. En revanche, il peut regarder, s'il le souhaite, un peu de dessin animé. Car la lumière de la télé est différente de celle de la tablette.
Très bien. Bon, j'allais vous dire, est-ce qu'il y a des écrans pires que les autres? Non, oui, la télé, ça va. Mais la
télé,
tablette,
c'est acceptable. La télé,
parce qu'elle est loin, en fait, la télé.
Exactement. Ouais. Elle est loin. Elle n'est pas dans la chambre. Souvent.
Le mieux, c'est la radio encore. Hein,
exactement. Dans la radio, il n'y a pas de lumière. C'est extraordinaire. On peut faire écouter des podcasts, notamment aux enfants. Mais il ne faut pas oublier que souvent, la tablette est, en plus de ça, utilisée dans un contexte de luminosité extrêmement faible. Ils vont être dans le noir et ça va être encore
ça,
plus nocif pour les écrans. Et donc à ce moment-là, on a un double effet, l'effet de la lumière sur les yeux et puis l'inactivité qui va aussi entraîner des problèmes cardiovasculaires chez les enfants. Mmh. On sait que les enfants mettent une minute de plus pour faire 400 mètres qu'il y a 20 ans. Ouais. Donc, ils ont perdu des capacités à cause des écrans.
Très bien. Bon, sur le sommeil, rapidement, Jimmy, comment on peut considérer que ça nuit au sommeil? À partir de quand on sait que ça nuit au sommeil? Est-ce que tous les
tout
enfants
temps,
sont touchés?
Tout le temps, les écrans et la lumière d'une façon générale. Il ne faut pas oublier que les lumières qu'on a, les LED dans nos maisons, eh bien, émettent une longueur d'onde qui est un peu proche de celle de nos écrans. Et donc, c'est celles qui vont aussi contribuer à perturber notre horloge interne.
On
et donc
quoi,
les enfants
alors,
le soir.
On peut pas éteindre la lumière toute la journée.
On peut tamiser le soir, on peut mettre des bougies, pourquoi pas. C'est chiant, je suis d'accord, mais peut-être c'est une autre façon de voir si les enfants ont des troubles du sommeil. Et même les enfants qui pensent bien dormir alors qu'ils sont exposés aux écrans ont une qualité de sommeil différente des autres. Donc il ne faut pas se dire mon enfant dort de minuit très bien, enfin de 23h jusqu'à 9h
du matin.
Si
on analysait leur sommeil avec des appareils, on verrait qu'ils dorment pas bien.
Qu'ils dorment très mal. D'accord. Donc les écrans, c'est vraiment l'ennemi de nos sommeils.
Merci beaucoup, Jimmy, pour cet éclairage. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous, bien sûr, depuis 15h avec le docteur Jimmy Mohamed. Et puis pour cette dernière séquence de l'émission, comme tous les jours, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Aujourd'hui, Catherine, il va falloir répondre à la question envoyée par mail par France. France, elle est mariée depuis 40 ans. Jimmy, vous nous lisez sa question?
Avec plaisir. Mon mari m'a avoué qu'il m'avait trompée il y a 23 ans. Mais depuis cette annonce, il y a quelques semaines, j'ai des pulsions sexuelles, j'ai très souvent envie de faire l'amour avec lui et j'ai des orgasmes énormes. C'est génial, mais j'ai peur que cela ne dure pas. J'ai peur que mon organisme réagisse par rapport à la tromperie et qu'ensuite, tout retombe. Est-ce une passade? Merci pour vos lumières. Alors Catherine, c'est vrai que c'est perturbant ce que dit France, qu'on aurait tendance à croire qu'après une tromperie, notre libido baisse, mais en fait, pas toujours.
Pas toujours en effet, parce que il y a ce qui peut faire que je me sens donc dévalorisée, trahie, manipulée, qui entraînerait une baisse de libido en effet. Mais il y a tout ce qui justement est à l'origine de notre conquête, puisqu'une partie de notre désir, une partie de notre mise en scène érotique et sexuelle vient du fait que j'ai besoin d'attacher l'autre à moi et donc de lui montrer toutes les perspectives et tout l'intérêt que je peux représenter. Donc évidemment, sachant que il a été capable de me tromper, tout d'un coup, je veux remettre de la braise dans le foyer pour justement nourrir la qualité de la relation. Donc c'est à but d'attacher l'autre à soi. Et puis il y a un deuxième point qui est l'idée qu'il y a des rivales. Et une des raisons de notre excitation aussi, c'est l'idée d'être meilleure que la voisine. Donc c'est la compète qui est à l'œuvre.
Donc c'est l'angoisse qu'il aille voir ailleurs peut-être aussi une nouvelle fois, qui la pousserait peut-être, même sans que ce soit conscient, à se surpasser sexuellement.
Oui, c'est-à-dire que malheureusement, dans nos couples, on finit par penser qu'on s'appartient l'un l'autre, qu'on est à l'un à l'autre, qu'il sera toujours temps de se rabibocher demain, qu'il sera toujours temps de se faire des douceurs, qu'il sera toujours temps, oh ben on fera l'amour ce week-end, là on est fatigué, etc. Alors que d'une certaine manière, sentir que la vie passe, qu'il peut y avoir des opportunités desquelles nous ne sommes pas.
On devrait donc être toujours inquiet en fait, si on vous écoute là, toujours inquiet que l'autre aille voir ailleurs.
Ben, enfin, en fait, c'est un petit
ça
peu...
Ça pas très rassurant ce que vous dites là.
Non, mais en fait, ce n'est pas d'être inquiet, c'est de réaliser que nous avons tendance à toujours reporter au lendemain humain, à ne pas être assertif. Alors, ce n'est pas au nom de l'inquiétude. Là, il se trouve que dans ce cas, c'est au nom de l'inquiétude. Mais d'une façon générale, la qualité des relations, c'est quand on accepte que l'autre n'est pas moi, que l'autre ne m'appartient pas et que donc, je suis toujours en mouvement pour lui plaire. En mouvement,
il y a toujours un peu urgence, mais une urgence saine.
Voilà,
quoi, c'est ça.
Exactement. C'est-à-dire, on vit comme si c'était le dernier jour de notre vie. Normalement, il nous faudrait pouvoir mesurer le bonheur que nous avons à vivre, respirer, manger, voir des choses. C'est pas parce que nous sommes dans la même ville qu'il ne faut pas nous émerveiller. Eh bien, tout ça doit rester dans une dynamique et nous avons tendance à nous empâter à force d'habitude et c'est bien dommage.
Alors, sans culpabiliser France, qu'on remercie pour ce témoignage, parce qu'il faut savoir se livrer, il faut être en mesure
d'écrire. Il n'y a pas de dans cette émission.
Exactement, malgré tout. Le fait qu'elle ait repris des rapports sexuels et qu'ils sont même finalement encore mieux qu'avant, est-ce que ça n'envoie pas un message un peu particulier au mari en disant tu m'as trompé et malgré tout je suis toujours là et c'est même encore mieux qu'avant? Est-ce que dans sa tête, lui, il ne va pas se dire bon, bah, finalement, ce n'est pas tant une erreur que ça vu que ça se passe bien? Est-ce qu'on n'envoie pas un message un peu brouillé?
Non, enfin, on peut considérer que peut-être effectivement l'idée de la jalousie stimule et donc il pourrait, s'il était un peu pervers, nous le sommes tous un peu, hein, mais s'il avait un peu trop de perversion, eh bien, une perversité, il pourrait être dans justement une action régulière de mettre sur le grill son épouse. Donc là, il faut faire évidemment attention. Ce pourrait être ce message brouillé, en effet. Mais sinon, c'est comprendre aussi la force de la relation envers et contre tout et le risque qu'il encourt de risquer de perdre cette qualité de relation. Et je pense que assez naturellement, inconsciemment, c'est plutôt cela qui se joue pour France.
Et pourquoi un homme, parce que ça c'est finalement le début de la question, mais pourquoi un homme annonce à une femme qu'il l'a trompée il y a 23 ans, franchement? Alors, c'est pas un peu bizarre quand même? Alors, je dis pas que c'est bizarre, mais c'est douloureux de lui faire ça. Ça sert à quoi 23 ans après?
Moi, je pense que ça.
Bon, ça se termine bien, tant mieux. Apparemment, ça a ravivé la flamme. Mais
il faut revoir certainement le contexte. Sans doute que c'est derrière une conversation, un film, parce que c'est très loin, que c'est un peu comme on parlerait de sa jeunesse.
Il faut avouer, même
23
ans après, selon vous?
Il faut, non.
On fait ce qu'on veut.
On fait ce qu'on veut, encore une fois. Je pense qu'effectivement, sortir des vieux dossiers n'est pas tout à fait utile. Maintenant, dans quel contexte c'était? Peut-être qu'ils se sont livrés sur des de choses.
Donc qu'elle profite, France, en tout cas, de ce feu ravivé, peut-être, c'est ça aussi le message.
Voilà, de toute façon, là, ils ont su en faire ça, et c'est ce qui est intéressant, mais ça fait pas loi pour tous les couples, bien évidemment. Et elle craint que ça retombe, évidemment que ça ne retombera que si elle s'endort. S'il faut être... Et du coup, ça ressolliciterait une infidélité, et là, on se trouverait dans des trucs un peu malsains, donc il faut trouver...
Comment consolider ça?
Voilà, trouver des ressorts et rester toujours proactive parce qu'effectivement, la vie, l'autre ne nous appartient pas et on pourrait perdre la qualité d'une relation et la qualité d'un amour au nom d'un endormissement. Donc, nous ne sommes pas des belles au bois dormant.
Très bien. Merci beaucoup, Catherine. Nous ne sommes pas des belles au bois dormant, Jimmy. Vous notez bien. Merci pour ces conseils précieux, comme toujours, Catherine. Et donc, à demain. Demain, à la même heure, nous serons là dès 15h. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern et Mathieu Noël. Ils nous raconte l'histoire sans se la raconter. Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie.
Revenez, attention, ils sont devenus fous.
Mais qui, Stéphane?
Eh ben Charles VI, le fol.
Ah oui, le roi fou.
Le roi fou. Bon, il était fou longtemps. Séraphine de Senlis, une peintre incroyable. Mais tout le monde la prenait pour folle. Et puis...
bon, ben, elle était, à la fin, je crois qu'elle était vraiment Stéphane.
Oui,
hein.
Je crois qu'elle était, elle avait un pétocasque.
Ce qui n'enlève rien au talent. Oui. Comme notre troisième personnage du jour, le contemporain de l'étape, il s'appelle, ce nom très compliqué à prononcer, un acteur très célèbre.
Chia LaBeouf.
Vous le connaissez
pas un nom.
Bah écoutez, c'est votre jugement, c'est un petit peu rapide. Nous essaierons d'en savoir un peu plus sur ce gentil garçon qui a effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, un sacré pet au casque.
Merci beaucoup messieurs, ils sont fous de talent, alors surtout restez sur Europe 1.